Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Au sommaire de l'émission jusqu'à 13h, la semaine des humoristes d'Inter, le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Et puis le débat du samedi, que reste-t-il de nos amours, de nos vies amoureuses, de nos vies sexuelles? Ont-elles changé après l'affaire Weinstein et les mouvements MeToo ou Balance ton porc? Et maintenant qu'on a un peu de recul, faut-il vraiment s'inquiéter d'un triomphe du puritanisme? Notre invité publie une grande enquête sur la vie sexuelle en France. La sociologue Janine Mossu-Lavaux viendra nous rejoindre dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Bonjour Natacha.
Bonjour.
Et bonjour Raphaël.
Bonjour.
Après Zemmour, l'amour, voilà ce qui est au programme. Et avant de revenir avec vous sur l'actualité, la semaine vue par les humoristes de France Inter est mise en onde par François Audouin. Et cette semaine, nos humoristes ont été inspirés par l'emploi. Il y a ceux qui en ont un, ceux qui veulent en changer et ceux qui en cherchent encore, comme ce chômeur face à Emmanuel Macron lors des Journées du patrimoine, Tanguy Pasturon.
Macron propose donc à cet horticulteur de bosser dans la restauration. Ce secteur que font tourner à eux seuls Gérard Larcher plus 4-5 sénateurs. Et c'est vrai qu'il y a des places à prendre. Les types sont obligés d'engager des sans-papiers qui payent 2€ de l'heure. Vous entrez dans une crêperie à Paris, en cuisine, il y a 5 Pakistanais et le patron vous dit, voilà, c'est Erwan, Loïc, Gaël, Denez et Johan. Parce que la vie, selon Macron, est simple. Vous en voulez, à vous le succès. Comment il a fait, lui? Il était fait pour être directeur commercial d'une start-up. Il a vu qu'un poste se libérait parce que le monsieur d'avant, un type qui faisait des blagues, prenait sa retraite pour vivre une vie sexuelle accomplie sur le porte-bagages d'un Piaggio, et il a pris le job. C'est ça la France. If you want, you get the power.
Mais le monde du travail n'est pas idyllique. Jérémy Crédville nous rappelle que l'entreprise peut aussi être un milieu hostile.
Petite question pour se mettre dans l'ambiance. Quelle est la troisième cause de mortalité au boulot?
Nagui.
Non, ce sont les meurtres. Ouais. Oh, et
au
oui,
boulot,
certains prennent à la lettre l'expression « se tuer au travail ». C'est un article du journal suisse Le Matin, datant du 12 septembre, qui m'a appris que le meurtre était la troisième cause de mortalité au boulot. Journal que j'ai eu d'ailleurs le soir du 15 septembre. On n'est pas obligé d'être le matin du 12 septembre pour lire un article du matin du 12 septembre. Pas tout. Il y a des provinciaux qui lisent Le Parisien et des gens tout seuls qui lisent L'Équipe. Mais à l'approche de midi, revenons au matin. Mais comment tue-t-on ses collègues, nous demande l'article. Eh bien, en majorité avec une arme à feu, mais aussi avec une arme blanche grâce à laquelle vous pourrez poignarder, couper, trancher ou encore percer Sylvie de la Comta.
Et autant de risques que connaissent bien les forces de l'ordre, nous explique Pablo Mira.
Eh bien, il est temps de se soucier un peu de notre police qui souffre. Une police qui, espérons-le, ira bientôt mieux grâce au plan reconquête des banlieues de Gérard Collomb. Car oui, enfin, la République va enfin faire trembler les délinquants. Et ça ne sera même pas à cause de Gérard Larcher qui fait un footing. L'objectif de ce nouveau plan, et c'est pas gratuit ça, Alex.
Ça, c'est vraiment pas gratuit.
Mais ceux qui souffrent le plus, ce sont bien sûr les habitants de ces quartiers difficiles qui n'en peuvent plus. La preuve avec ce sondage de l'INSEE, réalisé en janvier dernier. 90% des Français se disent favorables à un retour de la police de proximité. Les 10% contre étant bien sûr des agents de la police de proximité.
Et c'est peut-être justement ce qui pousse Gérard Collomb à quitter le ministère de l'Intérieur pour la mairie de Lyon. Écoutez Daniel Morin.
Rien ne va plus dans ce gouvernement, ça claque la porte à tout va. Enfin, ça claque en fonction des forces qui restent, bien sûr. Nicolas Hulot, Laura Flessel, et bientôt Gégé Collomb. Être ministre, c'est usant pour les nerfs, mais physiquement aussi, ça vous ronge un homme. Récemment, il avait du mal, notre Gégé Collomb. Oui ? Il est l'heure de se réveiller, monsieur Collomb.
Déjà ?
Oui, il est 15h.
Ça fait combien d'heures du sommeil ?
Là, vous dormez depuis exactement 2 jours et 9 heures.
Ok, je me lève.
Je peux me permettre de vous demander où vous allez ?
Il y a un truc à faire.
Quoi ?
Une sieste.
Et puis, pour retrouver un emploi, il y a aussi les réseaux spécialisés dans les rencontres professionnelles. Agnès Surstel dans la bande originale.
Est-ce que vous connaissez LinkedIn?
Oui.
Réseau social,
rencontres
professionnelles. Ouais, mais en fait, pas du tout, Nagui, pas du tout. C'est comme tous les autres sites, c'est juste pour Ken. La seule différence...
C'est quoi le site, exactement?
LinkedIn. La seule différence, c'est que pour Ken, via LinkedIn, il faut un très bon CV. C'est la seule différence. Vous avez jamais reçu une notification de LinkedIn? Si jamais un jour, vous recevez Corinne DRH souhaite élargir son réseau professionnel, elle avec vous, c'est pas son réseau professionnel qu'elle veut élargir.
Oh.
Non, c'est que Corinne, elle est dans cette phase-là de sa vie où elle s'est dit, allez, mois de septembre, nouvelle année, nouveau bilan sur moi-même, nouvel espoir en moi-même, j'arrête Tinder, je vais sur LinkedIn. Moi, je pense, les enfants, que LinkedIn, c'est le YouPorn des CSP+, un peu timide.
Et c'était donc la semaine vue par les humoristes d'Inter, le grand face-à-face continue.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
Le duel, et on va commencer Natacha et Raphaël avec les suites de cette scène qui colle décidément à l'image d'Emmanuel Macron. C'était au cours des Journées du Patrimoine samedi dernier. Le président interpellé par un jeune homme, un jeune horticulteur qui peine à trouver un emploi.
Il y a des métiers qui nécessitent des compétences particulières. Quand les gens les ont pas, on les forme, c'est pour ça qu'on investit. Mais après, il y a des tas de métiers, c'est aussi... Maintenant, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier.
Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème.
Vous faites une rue, là, vous allez à Montparnasse, par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés, les restaurants, franchement... Je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment.
Natacha Polony, vous titrez « Panique à l'Élysée ». Est-ce que c'est lié notamment à cette scène ?
Cette scène fait partie d'un ensemble. C'est-à-dire que cette scène, elle reprend la méthodologie d'Emmanuel Macron, le style qu'il a employé pendant sa campagne. Et pendant sa campagne, ça marchait, ça plaisait.
Ouais.
Et là, on a l'impression que la mécanique est cassée et qu'on ne voit plus que les ficelles. Et surtout, que ce qui apparaît, c'est le décalage total entre cette phrase qui se veut volontariste et la réalité du pays. Cela dit, c'est très intéressant cette scène parce qu'il faut analyser en profondeur ce que dit Emmanuel Macron. Sur le fond, il y a en effet, il suffit de se promener un peu partout en France pour le savoir, des tas de petites entreprises et en particulier en effet dans l'hôtellerie-restauration où des patrons ne trouvent pas d'employés. Mais on ne peut pas se contenter de dire ça. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est un phénomène global. Ce n'est pas de la seule responsabilité de jeunes qui ne voudraient pas travailler. Donc ce que dit Emmanuel Macron là, c'est une vision totalement univoque des choses qui repose sur un substrat idéologique libéral qui consiste à dire l'individu est responsable. Donc le rôle de l'État est de se désengager et d'agir le moins possible dans l'économie et par son volontarisme, l'individu va lui trouver du travail si on le laisse. C'est ce qui est une vision tronquée.
Il y a un problème avec cette vision, c'est qu'il y a largement plus de chômeurs que d'offres d'emploi aussi. Donc c'est pas simplement une question de connecter les deux, c'est que l'économie produit pas assez d'emplois pour employer tous les chômeurs. Et dans cette vision, en fait, l'individu, parce que c'est ça le cœur, à mon avis, idéologique du macronisme, l'individu est responsable de son existence. C'est-à-dire que eh bien, quand il réussit, il ne doit son succès qu'à lui-même, et quand il échoue, il doit son échec à lui-même aussi. C'est la vision qui a triomphé en Occident à partir des années 80. C'est une vision assez cohérente. Et en France, elle arrive, et il y a, à mon avis, un article absolument extraordinaire dans le Point de Saïd Maran, qui explique en fait que tous les autres présidents avant Emmanuel Macron auraient, y compris Nicolas Sarkozy, dit-il, auraient pris une mine contrite. Parce que l'empathie était de mise, en fait, avec ceux qui n'ont pas d'emploi. Et là, on a une rupture où on assume le fait qu'il faut arrêter l'empathie et que chacun est maître de son destin. Or, c'est simplement faux, en fait. Chacun n'est pas maître de son destin. Chacun a une responsabilité dans la manière dont il se confronte à son destin, mais on a une place dans la société, on a une classe sociale, on a un environnement qui produit même le plus grand un des plus grands milliardaires américains
Warren Buffett
exactement dit si j'avais été placé au milieu du Kenya il est bien évident que je m'en serais pas sorti. Donc il faut arrêter avec cette théorie la simple responsabilité individuelle.
Natacha,
je pense que en effet il y a une question d'équilibre là-dedans, c'est-à-dire que l'émancipation, ce terme qui est si cher à Emmanuel Macron et qu'il place dans chacun de ses discours, ça ne se définit pas seulement par le fait qu'on va en effet lâcher l'individu dans la nature et lui dire débrouille-toi et si tu veux tu peux, alors, sachant qu'il faut mettre quelques conditions. L'émancipation, c'est un processus. Et c'est un processus qui, bien sûr, relève aussi par exemple, dans ce cas-là, du rapport que on va construire avec la notion de travail. C'est-à-dire, est-ce que le travail est une valeur? Est-ce que dans une société, on arrive à faire passer l'idée que le travail est un des éléments constitutifs d'une personnalité et qu'il relève justement de l'émancipation nécessaire et de l'épanouissement? Ça, c'est un des points, mais on ne peut pas tenir ce discours-là sans avoir aussi la réflexion sur ce qui, dans l'organisation économique et sociale, est en train de détruire cette valeur travail. Si des jeunes gens se comportent de façon parfois consumériste, et je peux vous en citer des exemples absolument énormes, innombrables, en réclamant de pouvoir être licenciés quand ils ont besoin de toucher leur chômage, de recharger leurs droits, c'est parce que la société, d'abord, l'organisation du travail a fait en sorte d'induire cela. C'est-à-dire que ce qui a été fait pendant des années dans les grandes entreprises où on jetait les salariés comme des denrées périssables, eh bien, a induit un rapport au travail totalement destructeur. Et du coup, ce sont les petits patrons qui le payent parce que on ne voit pas pourquoi des employés se tueraient au travail et surtout s'accompliraient auprès d'une entreprise si eux sont corvéables à merci et peuvent être jetés.
Mais comment expliquer, c'est ce que vous disiez Natacha au tout début de votre intervention, comment expliquer que les mots du président, les transgressions passaient dans l'opinion plutôt bien lorsqu'il était en haut des sondages et aujourd'hui bah, ça ne fonctionne plus, Raphaël?
Ça ne fonctionne plus parce que ça c'est un effet de répétition qui transforme la transgression en une norme de l'arrogance. C'est-à-dire que il y a là une forme de...
Arrogance.
Oui, bien sûr. Ça me semble évident qu'il y a une forme d'arrogance, mais même à la limite, ils le revendiqueront. Il y a une forme...
D'autres ont dit parler vrai.
Non, là, ça s'appelle une forme d'arrogance. Pourquoi? Parce que...
C'est toujours dans le même sens.
Parler vrai supposerait que dans ce cas-là, quand il reçoit l'ensemble des plus grandes compagnies et les héros de la fraude fiscale mondiale dans les jardins de la République, il leur parle vrai aussi. Et c'est-à-dire que quand il se retrouve face à Google ou Facebook, il devrait parler vrai. Alors, si c'est du parler vrai et qu'on dit, eh bien, à mort la politesse, disons enfin la vérité avec ampleur et force, eh ben, on commence par les puissants. Là, le problème, c'est que le parler vrai, il s'adresse à ceux qui sont dans une situation de dominé. Et donc, c'est pas du parler vrai. C'est de l'arrogance. Quand un dominant assume un parler vrai face à un dominé, mais pas face à un dominant, ça s'appelle de l'arrogance, du mépris de classe, ça s'appelle une condescendance en tout cas.
Encore un mot sur le sujet, Natacha ?
Encore un mot, je pense que le mal est plus profond que cela. C'est-à-dire que l'épisode de l'affaire Benalla, les résultats économiques chancelants montrent ce qu'est réellement le macronisme, à savoir qu'il n'est absolument pas disruptif ou novateur. Emmanuel Macron fonctionne comme tous les autres présidents que nous avons eu. C'est-à-dire qu'il espérait qu'en libéralisant et en dérégulant, en adaptant la France à la mondialisation néolibérale, il allait obtenir des gages, notamment de l'Allemagne, pour assouplir un petit peu ce qui est en train d'étouffer notre économie. Et il s'aperçoit que c'est faux.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Vous avez prononcé le nom, Natacha, Benalla. On avait réussi à y échapper jusqu'à présent, mais le feuilleton nous a rattrapés. Alexandre Benalla, qui vous le savez, a été entendu mercredi dernier par la commission d'enquête parlementaire du Sénat. Une audition de près de 3 heures et ses mots.
Je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron parce qu'il y avait déjà, comme je vous l'ai dit, pendant une durée de 3 mois environ, je ne veux pas me tromper, mais je vous fournirai exactement les dates des recrutements et l'arrivée des officiers de sécurité du SDLP. Vous aviez... deux personnes qui étaient en charge de la protection, qui étaient dans la voiture avec Emmanuel Macron, qui l'accompagnaient partout, même là où je n'allais pas, le soir, dans des rendez-vous, chez des médias, etc. Je n'étais pas avec lui.
Alexandre Benalla devant les sénateurs, c'est assez intéressant de voir la manière dont se déroule ce feuilleton avec une très grande difficulté aujourd'hui de percevoir les conséquences de cette affaire et d'en imaginer l'issue.
C'est d'autant plus difficile que Alexandre Benalla est un personnage assez étonnant. Il a très clairement parfaitement préparé cette audition. Le discours est impeccable, mesuré. On sent que les éléments de langage sont là et que c'est d'une efficacité totale. Sur le fond, il n'a répondu à rien. Alors, peu importe, on s'aperçoit que comme à chaque fois qu'il y a ce genre d'affaires, au bout d'un moment, on sature de ce genre de choses. Donc il faut arrêter de se focaliser sur cette affaire elle-même, qui n'est pas non plus l'affaire du siècle, qui doit rester dans sa juste proportion. En revanche...
Vous trouvez que les médias en parlent trop ?
C'est-à-dire que il faut à un moment donné prendre du recul et comprendre ce que cela révèle plutôt que de se focaliser sur les épisodes croustillants de cette histoire. Ce que ça révèle, c'est d'abord un rapport au pouvoir, une façon d'exercer le pouvoir de la part d'Emmanuel Macron, et ce que ça révèle ensuite, c'est la fragilité d'un édifice où un grain de sable comme cette affaire-là et l'irruption de ce personnage sur la place publique est en train de fissurer totalement tout le discours du gouvernement. Pourquoi ? Parce que, justement, il n'y a pas de base solide autour pour ramener cette affaire-là à sa juste proportion.
Raphaël, alors, je suis totalement d'accord sur la deuxième partie. C'est-à-dire que ce qui est fou, c'est qu'après l'été, en fait, ceux qui relancent l'affaire Benalla, eh bien, ce sont les gens autour d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en prenant son téléphone pour appeler le président du Sénat, le président lui-même va redonner un impact politique à l'affaire Benalla, qui en soi, donc, quand on connaît l'histoire de France, honnêtement, il y a eu pire dans l'histoire de France à l'Élysée que le comportement ultra répréhensible de Benalla. Et donc là-dessus, mais sur la première partie, ce que ça révèle, c'est justement une forme d'hubris. Or, celui qui est touché par l'hubris, eh bien, panique quand il ne contrôle plus les événements. Et c'est ça qui se produit aujourd'hui dans la Macronie.
Vous parlez comme Gérard Collomb.
Bien sûr, non, mais c'est mon...
qui est un des éléments de l'effondrement.
C'est mon nouveau philosophe préféré. mais il y a forcément, quand on a l'illusion du contrôle absolu, au premier grain de sable, quand on se rend compte que finalement, nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes comme de l'univers, eh bien, on devient totalement paniqué et on fait des erreurs de débutant. Donc ça, c'est très surprenant. Sur la première partie, il y a quand même quelque chose de plus profond que simplement le macronisme là. C'est-à-dire que on a raison de s'attarder sur la manière dont Emmanuel Macron a pas su gérer du tout cet événement, mais la vérité oblige à dire quand même que on vit dans une monarchie républicaine, la Ve République, et que ça fait bien longtemps que ce genre de barbouzerie a cours en France et que nous ne sommes pas des habitants de la Suède, cher Libédo, si vous avez...
Pas encore,
en tout cas, mais peut-être qu'on nous le saurons jamais, peut-être ne faut-il pas l'être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a un fonctionnement monarchique et que moi, je vois dans l'affaire Benalla, telle qu'elle explose aujourd'hui, au contraire, quelque chose d'extrêmement positif.
Ah,
c'est-à-dire,
oui.
Bah oui, parce que là, on a des contre-pouvoirs qui se sont mis en place. C'est-à-dire que c'est pas fréquent en France. Quand la France est accusée d'avoir soutenu un régime génocidaire, on a une mission d'information de l'Assemblée nationale qui questionne de manière extrêmement polie et quasi déférente, moi je me suis tapé, l'ensemble des auditions de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le Rwanda, et qui questionne le pouvoir de manière exécutive, de manière extrêmement déférente, en disant nous sommes vraiment désolés, sauf un ou deux députés qui sont des kamikazes et qui osent se poser des questions dures. Mais généralement, les députés commençaient par... Vraiment, vous êtes absolument géniaux parce que vous incarnez la France, la grandeur de la France, et donc on est vraiment désolé d'avoir à vous poser des questions. Là, c'est très différent, et je pense qu'en fait, on fait l'apprentissage, de la séparation des pouvoirs. Et quand Emmanuel Macron prend son téléphone pour appeler le président du Sénat, eh bien, il est un personnage de la Ve République traditionnel. Pas du tout le nouveau monde, l'ancien monde, qui appelle une institution qui prend son autonomie.
Alors, j'adorerais en effet que ça manifeste de véritables contre-pouvoirs. Quand on voit que le président de l'Assemblée nationale est désormais devenu un poste totalement secondaire que l'on donne à quelqu'un qui a bien rempli son rôle, sans aucune réflexion sur le caractère essentiel de ce poste. Je pense que ça pose un problème. Et puis sur la question des commissions, je suis d'accord avec vous, on pourrait souhaiter qu'il y en ait d'autres. C'est-à-dire qu'il y aurait autre chose à faire que l'audition d'Alexandre Benalla. Par exemple, sur la Libye, on attend toujours une véritable commission d'enquête sur la Libye. L'Angleterre l'a fait et a été d'une dureté avec Tony Blair tout à fait excellente.
Avec Cameron...
Avec Cameron. Mais, et sur l'Irak, avec Tony Blair.
Oui, parce qu'ils ont une tradition de ça. Donc moi, ce que je dis, c'est pas du tout que Emmanuel Macron est pour ça, au contraire, il essaie de le freiner. Mais cette séparation des pouvoirs surgit contre le pouvoir exécutif. Et de toute façon, ça ne pourra se produire que comme cela, parce qu'en France, on a un pays dirigé par des roitelets qui, à 7 ans, veulent devenir président de la République et qui se prennent tous pour Louis XIV. Donc, à un moment, il faut que ça arrive contre eux. Et ce qui se produit aujourd'hui avec la faiblesse de la Macronie, c'est quelque chose de démocratiquement sain. C'est-à-dire que la situation pendant un an où, en gros, des salles de rédaction aux institutions, on avait un défilé de courtisans et on se croyait dans les portraits de la cour de Louis XIV, eh bien cette situation a pris fin, ce qui permet l'émergence du Sénat comme contre-pouvoir.
Encore un mot sur le sujet. Vous pensez qu'on vit aujourd'hui un tournant du quinquennat d'Emmanuel Macron, Natacha ?
Je pense que nous vivons un dévoilement de ce qu'est le macronisme. Mais encore une fois, ce n'est pas sur la dimension anecdotique de l'affaire Benalla que c'est intéressant. C'est sur la question institutionnelle, la question des contre-pouvoirs et sur la question économique qui est derrière. Les choix économiques d'Emmanuel Macron sont-ils justes ? Sont-ils tenables ? Je pense que tout cela est en train de chanceler et que hélas, hélas pour le pays, nous allons revenir à l'impuissance qui était celle de tous les autres présidents, parce que cette impuissance est organisée, elle est choisie, il s'agit d'accepter un modèle économique qui s'impose à nous, dans lequel il n'y a plus aucune marge de manœuvre.
Raphaël.
Oui, mais il faut pas prédire l'avenir, c'est-à-dire que il y a encore une possibilité, on le voit bien, quelle va être la carte que va jouer Emmanuel Macron dans les moments qui viennent et dans les élections qui vont venir. Sa carte, ça va être de dire, ok,
moi, le chaos.
Voilà, vous, honnêtement, vous avez tous été déçus. J'ai bien compris que vous m'aimez pas spécifiquement, que je suis pas votre. Quand vous endormez le soir, vous ne pensez pas à moi en souriant. Mais c'est soit moi, soit Salvini, Orban et l'ensemble de l'extrême droite dégénérée qui vont prendre le pouvoir, casser la paix, casser la démocratie, casser les libertés. Et donc, je suis un vote refuge. Donc, tout l'enjeu, en fait...
Vous pourriez être son conseiller en communication.
Ça dépend. Non, mais c'est très difficile.
C'est
évidemment ce qu'ils sont déjà en train de faire. Et ils pensent que ça va fonctionner. Tout l'enjeu, pour moi, ça ne dépend plus. Alors, c'est triste pour lui parce qu'il pensait qu'il contrôlait absolument la situation. Je pense que ça ne dépend plus d'Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense sincèrement que quoi que fasse Emmanuel Macron, les gens ne changeront plus d'avis à son égard, mais que par contre, si rien d'autre de crédible n'émerge, qui ne soit pas Orban, Salvini et l'ensemble des dégénérés de l'extrême droite, eh bien, effectivement, sa stratégie peut fonctionner.
Mais c'est extrêmement dangereux car c'est comme ça que progressent les extrêmes. Et d'où la nécessité d'avoir des contre-projets, de proposer, de débattre et de ne pas se focaliser sur cette vision binaire du monde. En gros, il y aurait d'un côté les libéraux, de l'autre les illibéraux, d'un côté les nationalistes, de l'autre les progressistes. C'est une aberration, les problèmes ne se posent pas comme ça. La logique binaire en général est assez pauvre.
Les problèmes se posent parfois aussi comme ça. Mais c'est pas exclusif d'autres clivages.
Disons que quand il se pose comme ça, c'est justement parce qu'on a laissé sous le tapis tous les autres problèmes.
Bien sûr, et tout le risque dans ce clivage. Juste, il faut quand même que les gens le sachent, c'est que ça a déjà eu lieu. On a un pays voisin qui s'appelle l'Italie, où l'ensemble des élites a rejoint Matteo Renzi, et où le thème c'était Matteo Renzi ou le chaos. Ben, on a eu le chaos.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Dans l'actualité aussi cette semaine, il y avait un sommet européen autour du Brexit qui s'est déroulé jeudi à Salzbourg en Autriche. Sommet tendu avec Theresa May qui a été très ferme en expliquant que c'était à l'Union européenne de faire évoluer sa position. Et la première ministre britannique est d'ailleurs dans une position délicate chez elle puisqu'elle fait face à une importante opposition dans son propre parti. Écoutez-la.
Si nous voulons parvenir à une conclusion réussie, tout comme le Royaume-Uni a fait évoluer sa position, l'Union européenne devra aussi faire évoluer la sienne.
Elle refuse de transiger, Theresa May. Elle a raison.
Non, mais Theresa May est coincée parce qu'elle se retrouve dans une situation où elle doit assumer un Brexit qui a été mal pensé par ceux qui l'ont voulu, qui n'a pas été réfléchi. Est-ce que pour autant cela veut dire que le Brexit en lui-même était quelque chose de catastrophique, que les Anglais se repentent, etc. C'est un autre problème. Et vous voyez qu'il faut distinguer les deux. Vous avez une mécanique européenne qui essaye à tout prix de limiter la libre décision de ses peuples par peur de ce qui pourrait advenir. Il faut maintenir en permanence la mécanique de marche en avant de cette construction européenne.
On peut aussi dire que l'Union européenne défend ses intérêts.
Non, mais ce qui est parfaitement légitime, que chacun défende ses intérêts, ça fait partie aussi du jeu. Le problème, c'est que justement, dans cette Union européenne, chacun défend ses intérêts, même au sein de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations totalement bloquées. Que le Brexit ait été voté est sans doute regrettable pour notamment certains pans de l'économie anglaise. C'est simplement un pays qui, à un moment donné, nous a rappelé que la question de la maîtrise du destin par les citoyens est essentielle. Après, ça se passe mal parce que, encore une fois, la classe politique anglaise du côté des partisans du Brexit est consternante.
Mais en même temps, il y a un problème. C'est-à-dire que, effectivement, la maîtrise est essentielle. Tout dépend de l'échelle à laquelle on veut placer cette maîtrise. Eux, ils ont décidé, de manière démocratique, que ça serait à l'échelle nationale. Donc, ils vont restaurer leur souveraineté nationale absolue. Mais ensuite, dans ce cas-là, s'ils ont fait ce choix-là, qui est un choix démocratique et une élection, moi je ne suis pas du tout pour annuler des élections et ensuite revenir dessus, mais eh bien qu'ils l'assument. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus faire ce choix et ensuite vouloir avoir tous les bénéfices d'une appartenance à l'Union européenne sans y appartenir et sans avoir les contraintes qui vont avec une appartenance. C'est-à-dire qu'il y a dans le choix anglais, mais c'est un peu une vieille tradition.
Mais j'allais dire que ça a toujours été
l'attitude de l'Angleterre vis-à-vis de l'Union européenne. Et donc c'est la continuité avec Margaret Thatcher et les autres. Mais simplement, à un moment, l'Union européenne est en droit là-dessus de dire, écoutez, voilà, maintenant là vous avez fait un choix très clair, vous avez mis fin à l'hypocrisie d'une appartenance non appartenante d'un bénéfice sans contrainte. Eh bien, voilà, maintenant c'est vous et vous devez, si vous voulez continuer à avoir des accords avec nous, bah vous conformez à l'intérêt quand même de l'Union européenne. Et ça, moi, je trouve que dans l'attitude de Theresa May, je sais qu'elle est coincée, mais il y a une forme d'illusion sur la puissance de la Grande-Bretagne qui, franchement, seule, ne pèse pas grand-chose, en fait.
Natacha. Je ne crois pas que la Grande-Bretagne pèse si peu seule, d'abord parce qu'elle n'est pas seule, elle n'est pas en train de se renfermer, elle est en train au contraire d'utiliser tous les autres modes de communication et de liaison, de lien qu'elle peut avoir avec les États-Unis, avec tout le reste. Donc nous verrons ce que ça va donner. Dans un sens, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce que l'Union européenne fait de cela. Très franchement, je pense que c'est la meilleure nouvelle qui pouvait arriver à l'Union européenne si on sait l'utiliser. L'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne a été un des éléments qui a contribué à casser ce que pouvait être un rêve européen. Et d'ailleurs, historiquement, ça intervient au moment où les États-Unis essayent de casser l'alliance entre De Gaulle et Adenauer pour former une Union européenne indépendante, c'est-à-dire avec une véritable défense et totalement une véritable puissance. Bon, ça a été détruit et l'Angleterre, de toute façon, empêchait cela. Donc, saurons-nous à partir de là saisir la possibilité d'avoir une Union européenne indépendante? Bon, je crains que ce soit pas tout à fait le cas. C'est dommage.
Là-dessus, on sera d'accord. On sera pas d'accord sur comment on y arrive, mais là-dessus, on sera d'accord. C'est-à-dire que le Brexit, c'était l'opportunité et incroyable pour l'Europe de enfin se redéfinir et enfin, en gros, être cohérente. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne l'a pas saisie.
On va en rester là pour le moment. Natacha, vous avez beaucoup écrit sur les rapports des hommes et des femmes au moment de l'affaire Weinstein. Vous avez repris le sujet dans un livre qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Délivrez-nous du bien, avec un point d'exclamation écrit avec Jean-Michel Quatrepoint. Et je me souviens de vos échanges passionnés à tous les deux la saison dernière. Notre invité cette semaine vient justement de signer une grande enquête sur la vie sexuelle en France. Et on va donc parler d'amour jusqu'à 13h. Le grand face-à-face continue avec le débat.
Le grand face-à-face sur France Inter.
La révolution sexuelle a-t-elle eu lieu? Aura-t-elle lieu? Quoi de nouveau en amour dans l'ère post-Weinstein? Notre invitée ce samedi est sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS, au Centre de recherche politique de Sciences Po. Elle travaille depuis longtemps sur la sexualité, sur notre sexualité, et elle publie une grande enquête qui vient de paraître aux éditions Lamartinière, le titre « La vie sexuelle en France ». Bonjour Jeannine Mossulaveau.
Bonjour.
Et bienvenue, vous avez recueilli des dizaines de témoignages de femmes et d'hommes partout en France, de jeunes, de moins jeunes, de tous les milieux, de toutes les orientations sexuelles. Avant de vous interroger sur les résultats de cette enquête, est-ce qu'ils disent de nous, est-ce que les mouvements MeToo et Balance ton porc qui ont éclaté alors que vous meniez votre enquête, est-ce que ces mouvements-là vous ont surpris?
Alors ces mouvements-là ne m'ont pas du tout surprise parce que moi j'étais sur le terrain depuis janvier 2017 et je constatais sur ces questions de la vie amoureuse et sexuelle une très grande liberté de parole, beaucoup plus grande que celle que j'avais pu observer 17 ans plus tôt, quand j'avais fait ma première grande enquête. Voilà. Et les personnes parlaient spontanément de sujets sur lesquels je devais leur poser des questions 17 ans plus tôt. Et sortaient notamment les questions des violences sexuelles, des atteintes sexuelles, de l'inceste, de ce qui s'était passé dans leur enfance et adolescence, et pour certains qu'ils n'avaient jamais dit à personne. Donc, c'était permanent, cette explosion. Donc, j'ai pas été du tout surprise quand, à l'automne, est arrivé MeToo, Balance Tempore et tout ça.
Raphaël. Mais moi, je suis très heureux et de votre livre et de votre présence, parce que ça vous confirmez quelque chose auquel je crois profondément, c'est-à-dire que cette libération de la parole n'avait absolument rien d'une pudibonderie ou d'un retour à un monde puritain. C'était au contraire la conséquence d'une libération de notre rapport à la sexualité. Et ce qui était rejeté dans Weinstein et dans tous les harcèlements, c'était pas du tout la sexualité ou la restauration d'un rapport pudibond à la sexualité. C'était au contraire la dissociation d'une sexualité libre avec l'idée de contrainte. C'était le rejet d'un rapport de domination, beaucoup plus qu'un rapport pudibond au sexe. Et donc, votre livre, en fait, il vient confirmer cette vision-là. C'est, nous parlons d'autant plus que nous sommes libres, au contraire.
Absolument.
Et pas pudibond.
Janine Bossu-Lavaux.
Oui, cette liberté, moi, je l'ai constatée justement partout. Et donc, je pourrais vous donner des exemples.
Hein. On va y venir justement, voilà. Mais très rapidement, est-ce qu'il y a un avant et un après Weinstein ?
Alors, peut-être, parce que effectivement, là, la parole a été publique et massivement prise. Donc, ça a poussé, je pense, un certain nombre de personnes à la prendre à leur tour. Alors, pas forcément dans les médias, parce que tout le monde n'est pas connu et ne peut pas prendre la parole dans les médias, mais en tout cas, autour d'eux, et notamment à en parler, bon, d'abord avec moi, mais à en parler en famille, à en parler entre amis, et en disant, bah, moi aussi. Et le moi aussi, il ne vient que quand... on sent qu'il y a suffisamment de soutien, disons, posé avant.
Natacha.
Mais ce qui s'est passé avec l'affaire Weinstein ne relève pas de la pudibonderie. C'est la façon dont ensuite certaines associations féministes se sont saisies de cela, où là on peut trouver une forme de pudibonderie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais simplement, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est justement qu'on voit la complexité de ce rapport, d'abord aux événements passés, à la souffrance, la façon dont se libère la parole, et la façon ensuite dont se construit l'image qu'on peut avoir de la sexualité. Il y avait eu un excellent article dans Le Monde de la journaliste Blandine Grosjean sur cette question-là, et j'adorerais que vous m'expliquiez, que vous me parliez de votre vision de ça. Elle parlait de la question de la zone grise et d'un problème de génération. Elle disait, dans notre génération, elle doit avoir 55 ans, quelque chose comme ça, finalement, une femme consentait, et on voit des exemples dans votre livre qui relèvent un petit peu de ça. Bon, c'était pas toujours parfait, par exemple, la première fois, mais on se sentait obligé, le garçon avait insisté, et puis bon, on l'avait fait, voilà, et ça faisait partie de la norme. Les jeunes filles d'aujourd'hui veulent que leurs actes correspondent exactement à leurs désirs et qu'il n'y ait pas cette zone grise où on ne sait pas si on consent ou pas. Est-ce que vous avez senti cette différence de génération ?
Oui,
Janine Bossu-Lavaux.
Oui, j'ai tout à fait senti cette différence de génération parce que j'ai eu par exemple des récits faits par des personnes qui ont, et notamment des hommes, qui ont plus de 50 ans et qui font état de leurs frasques sexuelles quand ils étaient enfants, dans des termes et en renvoyant à certaines pratiques qui, aujourd'hui, feraient hurler les jeunes, je dirais, féministes radicales qui sont vraiment grandis avec la consigne « Attention, mon corps est à moi, on n'y touche pas », etc., etc. Et pour qui il n'y a pas, justement, de zone grise pour elles, parce qu'elles sont très comme ça. Mais je pense, si j'ai le temps de donner un exemple...
Allez-y.
À un garçon donc que j'ai interrogé, qui a 55 ans, et qui me racontait que à l'école primaire, un des grands jeux qu'ils avaient, c'était de... Alors j'emploie ces termes, hein, les termes à lui, de coincer une gamine de leur classe à la sortie de l'école pour lui mettre la main dans la culotte et beaucoup plus profond après. Et l'expression qu'il employait, parce qu'ils faisaient ça assez souvent avec leurs copains, et l'expression qu'il employait en riant beaucoup, c'était, on se disait, on a l'impression de mettre les doigts dans une orange. Ce qui, voilà, qui rend bien compte de la situation. Or, c'est, aujourd'hui, c'est un viol digital. Et donc, on voit toute la différence, et pourtant là, c'est pas quelqu'un qui est un vieillard Kakushim, hein, c'est un garçon de 55 ans, mais il n'a pas du tout capté le fait que aujourd'hui, c'est un viol digital et que les féministes radicales, les jeunes féministes radicales, on rigolerait pas comme ça.
Raphaël, sans être une jeune féministe radicale, ça me semble normal qu'on en rigole pas comme ça. C'est pas propre
La génération d'avant, mais moi, c'était un jeu.
Oui, et vous parlez d'ailleurs des tolérances, des silences, notamment les années 70.
Et puis du manifeste aussi, qui avait été signé dans les années 70, par, disons, tout ce que la philosophie l'intelligentsia, disons, comptait, demandant la libération de trois hommes qui étaient en prison parce qu'ils avaient eu des jeux sexuels assez avancés avec des mineurs, et disant que les enfants avaient droit à la sexualité avec les adultes, etc., etc.
C'est un manifeste de 1977, où donc des intellectuels demandaient la mise en liberté de trois hommes emprisonnés, je vous cite, pour attentat à la pudeur sans violence sur des mineurs de 15 ans consentant au moment des faits.
Oui, mais alors justement, maintenant, le consentement des mineurs, on peut pas, l'affirmer comme ça. Hein. C'est à partir du moment où on est mineur, c'est plus compliqué. Et est-ce que la question que je pose d'ailleurs dans le livre, c'est est-ce que parce qu'il y a des survivants, il y a qui ont
oui,
signé.
Oui, parce qu'il y a Aragon, Sartre, mais il y a Bernard Kouchner, Philippe Solers, Daniel Sablin, est-ce qu'ils signeraient aujourd'hui,
etc. Et je dis, est-ce que ils signeraient aujourd'hui un tel manifeste?
Eh ben, j'espère bien qu'ils ne le signeraient pas.
Ah oui, ben moi aussi, c'est bien pour ça que je le cite.
Ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que ces dérives-là dont vous parlez, j'espère bien qu'il y aurait pas les mêmes signatures, ces dérives avaient lieu à un moment où la sexualité était en fait vécue de manière plus pudibonde que maintenant. Parce que ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'en réalité, on va combattre ces excès-là et on va restaurer une forme de tabou sur la relation sexuelle avec le mineur, l'attouchement non consenti. Et dans le même temps, ça ne veut pas dire que la vie sexuelle est beaucoup plus caché ou c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est plus on rend les pratiques de domination outrancière répréhensibles, plus on les rejette et plus on les dénonce, et plus on a une vie sexuelle réellement libre. C'est-à-dire que ces jeunes filles qui refusent les jeux de domination des garçons dans les toilettes, eh bien, elles ont aussi une sexualité complètement épanouie.
Bien sûr. Janine Bossu-Lavaux. Mais, simplement un mot pour dire que on retombe là sur ce débat qui est passionnant, et je pense que vous qui êtes philosophe, vous l'appréciez de ce point de vue-là, entre, disons, des mesures de protection et des mesures de libération. Et la tension entre protection et libération, elle est permanente. C'est-à-dire que quand il y a une protection, et notamment, heureusement, vis-à-vis des enfants, des femmes, en fait, disons, de tous les cas pour lesquels il faut une protection, vous avez toujours des Cassandres qui crient « Ah, retour de l'ordre moral, etc. Mm-hmm. » etc. Or, non, il y a protection, et en même temps, il y a une libération incroyable dans les mœurs. Moi, c'est ce que j'ai vu dans cette enquête et que je retrace dans ce livre.
Mais Natacha, vous évoquez régulièrement le risque d'une division binaire du monde. Les hommes seraient des violeurs potentiels, les femmes seraient des victimes potentielles. Est-ce que ça...
Non.
Vous le critiquez, Janine Bossu-Lavaux, c'est-à-dire que ce risque-là, ça rassurerait Natacha.
Je ne sais pas si je peux rassurer Natacha, mais en tout cas, elle va nous dire.
Je pense que ce risque existe parfaitement chez certaines militantes féministes qui ont tendance à exagérer la dimension prédatrice de l'homme. Mais ce qu'on comprend en vous lisant, c'est la complexité, j'y reviens, de la notion de consentement. Vous citez le cas, par exemple, d'une jeune femme de culture arabo-musulmane qui a voulu se réserver pour arriver vierge au mariage. D'ailleurs, il y aurait tant de choses à dire sur la question de la virginité, qui est quelque chose d'effarant. Le maintien de ce fantasme de la virginité est terrible. Et elle se donne à son fiancé, c'est-à-dire elle va pas jusqu'au mariage, elle se donne à son fiancé, mais c'est une souffrance. C'est une souffrance parce que pèse une culpabilité terrible. C'est-à-dire que notre sexualité, qui est ce que nous avons de plus intime, est tellement liée à notre religion, notre histoire familiale, nos récits, que là aussi, la question du consentement est complexe. Ce n'est pas, il n'y a pas oui ou non, je consens ou pas. Le corps peut refuser ce que l'esprit veut, et oui, c'est en ça dans, que ça nous ça rend les choses difficiles.
Dans le cas de cette jeune femme, qui effectivement a fini après des années de cohabitation et de jeux sexuels, c'est-à-dire, disons, de ce qu'on appelle encore, ce qu'on ose encore appeler des préliminaires avec son fiancé, finit parce qu'ils se sont officiellement fiancés par accepter la pénétration, en tout cas une tentative de pénétration, parce que elle se raidit tellement, tout son corps, disons, n'accepte pas ça, parce que dans sa tête, ça serait pas conforme à ce que lui a enseigné sa famille et ça ferait de la peine à son papa. Donc elle a mal, elle ne peut pas avoir de jouissance et elle ne sait plus comment fonctionner. Mais c'est dans un cadre, je dirais, religieux, culturel et religieux, très particulier, qui est effectivement la culture arabo-musulmane. J'ai pas du tout trouvé l'équivalent chez les autres femmes de tous les âges et de tous les milieux que j'ai pu interroger.
Est-ce que vous avez vu les risques aussi d'une dérive à l'américaine dans les relations hommes-femmes ou pas ?
C'est-à-dire une dérive à l'américaine, c'est-à-dire cette exigence que, à la limite, si vous voulez faire l'amour avec moi, il faut que je vous donne mon accord par écrit, quoi. C'est un peu ça. Disons, ça irait jusque-là. Non. Parce que je crois qu'il faut bien voir que moi, en tout cas, ce que j'ai étudié, c'est la vraie vie des vrais gens. Et la vraie vie des vrais gens, quand vous les écoutez, comme je l'ai fait, c'est-à-dire pendant des heures et des heures, parce que les entretiens, certains ont duré, le plus long a duré 5h30 quand même. Donc, ils ont eu le temps de dire beaucoup de choses et surtout de parler de leur vie depuis la petite enfance jusqu'au jour de l'entretien. Eh bien, quand vous les écoutez, vous voyez que ils ne sont pas ni conformes, ni ayant envie de se conformer à ce qu'on leur dit, ce que les élites ou les médias leur disent. Ils mènent leur libération sexuelle tranquillou, leur petit bonhomme de chemin, comme ça a commencé dans les années 60 et ça va continuer encore longtemps. Et ils demandent rien à personne, ils demandent ni permission, ni avis, mais ce qu'ils expriment, c'est de plus en plus de liberté et de plus en plus d'envie, je dirais, de profiter de la vie.
Natacha.
Alors, vous expliquez aussi, il y a cette question de l'entrée dans la vie sexuelle, oui. La question du porno qui revient très très souvent dans les médias. Il y a une inquiétude véritable, est une inquiétude qui me semble légitime parce que vous expliquez que finalement c'est surtout un modèle esthétique, c'est-à-dire les garçons exigent des filles l'épilation qui est un modèle qui vient du porno. Êtes-vous sûr de ne pas minimiser l'impact que peut avoir à l'échelle de générations entières cette puissance des images et des modèles imposés, pas seulement par les vidéos porno accessibles, mais par l'ensemble de l'intégration des codes du porno dans la société ?
Janine Bossuet-Labo.
Alors, moi, je suis beaucoup moins inquiète parce que je recueille ce qu'on me dit. Hein. Ce qu'on me dit, c'est quand même souvent, et notamment des jeunes qui effectivement regardent du porno de temps en temps, mais pas comme on le dit en étant, je sais pas, tout seul dans leur coin, imprégné et impressionnable. Mais d'abord, ils regardent souvent ça en bande de copains copines, c'est-à-dire mixte, pour rigoler. C'est quand même les témoignages que j'ai. Vous en avez qui regardent ça parce que ils aiment bien se masturber, y compris tous les jours, et que ça accélère les choses. Ça dure moins longtemps parce que ils ont plus du coup d'excitation. Ça existe. Et puis aussi parce que pour certains, ça a été la première fois qu'ils ont pu voir des organes sexuels parce que leurs parents se promenaient pas forcément nus et ils n'avaient pas forcément des frères et des sœurs dont ils pouvaient contempler les organes pour s'instruire. Donc voilà. Faut pas exagérer, je pense, cette influence du porno dans un sens négatif.
Raphaël, moi je pense que c'est un livre très rassurant et surtout qui dessine une figure féminine absolument séduisante pour moi. C'est-à-dire c'est la femme actrice de sa propre sexualité, absolument, qui va pas subir par exemple la question de la sodomie, mais qui va la dominer en fait en réalité,
ou la refuser.
Non, mais c'est-à-dire que quand elle s'y adonne, c'est pas une contrainte, mais c'est un jeu. Et donc il y a là, à mon avis, une photographie qui est nécessaire, parce que on a quand même largement fait tourner le débat autour du spectre d'individus qui seraient mus par des forces extérieures, soit la pudibonderie des néo-féministes quand on refuse leur combat, soit le porno, soit... Et en fait, en réalité, ce que ça montre, c'est que, eh bien, on assiste réellement dans les faits à une libération sexuelle, et que loin d'avoir moins de rapports à cause du triomphe de l'égalité, on va en avoir plus.
Janine Mossieu-Lavaux.
Oui, je pense que, en tout cas moi, ce que j'ai vraiment rencontré, c'est l'expression de l'envie de liberté des gens, mais surtout de l'exercice de la liberté. C'est l'exercice de leur liberté, et ça sans demander la permission à personne. Donc j'étais très rassurée, et c'est pour ça que cette enquête a été passionnante, et que du coup je l'ai écrite avec passion, parce que c'était très riche, et en même temps très joyeux.
Et de découvrir aussi comment les femmes s'approprient des traits masculins classiques. Je recommande donc de le lire. La vie sexuelle en France, c'est publié aux éditions de La Martinière. Toutes les semaines, Natacha et Raphaël, vous nous conseillez un livre, un film, une expo. Et nous demandons à nos invités de jouer le jeu avec vous. Et donc, on vous posera la question, Janine Mossieu-Lavaux. Mais on démarre avec vous, Natacha.
Oui, avec un livre qui va vous plonger entre 1973 et 1976. Pourquoi ont-ils tué Lippe ? C'est de Guillaume Gourgues et Claude Neuschwander, qui est un des acteurs de cette histoire. Qu'est-ce que c'était Lippe ? Lippe, c'était un des fleurons quand même de l'industrie française, c'était des horlogeries. En 1973, l'usine est en difficulté, une grève éclate, et alors va naître une expérience extraordinaire, une expérience d'autogestion, soutenue par notamment tous les membres du PSU, notamment par Antoine Riboud, grand patron. Et petit à petit, cette idée prend vie, c'est-à-dire que l'usine reprend. Et puis finalement, c'est un échec. Finalement, au bout de quelques années, l'usine ferme. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que raconte Claude Neuschwander, parce qu'il veut expliquer, lui, il veut rétablir sa vérité, et il explique que c'est en fait le pouvoir politique qui a tué l'expérience autogestionnaire de Lippe. C'est-à-dire ils étaient soutenus notamment par les ministres gaullistes sociaux, Jean Charbonnel et quelques autres, et l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing a amené cette priorité: il faut tuer cette expérience qui change les rapports sociaux dans l'entreprise. C'est un récit absolument passionnant, parce que ça nous raconte qu'il pourrait exister une autre forme de capitalisme.
Ouais, Le titre,
pourquoi ils ont tué Lippe, c'est des éditions Raison d'agir.
Et vraiment, pour les jeunes générations, il faut comprendre ce que c'était que Lippe. C'était un symbole absolument incroyable, une réinvention du monde dans les faits.
Et vous ne portez pas de montre au poignet pourtant.
Non, je n'ai jamais mis de montre.
Votre conseil, Raphaël ?
Alors moi, puisqu'on nous avait promis un nouveau monde et qu'on se retrouve avec les vieilles idées des années 80, il y a un livre qui vient de sortir de Rémi Noyon et de Philippe Fionduri qui s'appelle « Les idées nouvelles pour comprendre le 21e siècle ». Et alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est une sorte de travail quasi encyclopédique, de vulgarisation dans le noble sens et non vulgaire du terme vulgarisation, qui explore les nouvelles idées, puisqu'on n'en a pas vraiment en fait dans cette scène politique-là, dans le débat tel qu'il s'organise, dans les conseils de Pôle emploi de l'Élysée, de nouvelles idées depuis le revenu universel jusqu'au Bitcoin, en passant par les circuits courts, qu'est-ce que c'est que les communs, qui en fait sort du vocabulaire politique et philosophique des années 80 et 70, pour essayer de faire un dictionnaire de ce que serait un débat politique aujourd'hui. Donc ils prennent pas vraiment parti sur des idées réellement nouvelles. Et c'est passionnant à lire, et surtout c'est bien parce que ça permet de mettre en lumière le fait que quand on ouvre son journal, on parle absolument pas de choses nouvelles. C'est-à-dire qu'en réalité, on a toujours les mêmes débats, et donc j'invite à lire ce livre.
Janine Mossieu-Lavaux, est-ce qu'il y a une politique du sexe
Une politique du sexe
J'y pense en écoutant Raphaël.
Non. Je peux pas. Non. Il y a trop, je dirais, de positions différentes, d'avis différents, de mesures différentes qui peuvent être prises selon, disons, les sujets. Que je dirais, si on prend, vous voulez dire la politique publique d'aujourd'hui, par exemple. Alors, quand on a, par exemple, pénalisé les clients de la prostitution, puisque ça continue aujourd'hui et qu'il y a des mairies qui prennent encore des mesures, etc., etc. Moi, j'ai considéré que c'était une mesure absolument catastrophique. Mais d'autres
Pourquoi
mesures, parce que en pénalisant les clients, d'abord, vous faites une erreur juridique, enfin un monstre juridique incroyable, parce que dans la même loi, cette loi donc qui les pénalise, vous dites, vous abolissez le délit de racolage, donc vous dites aux prostituées, bon maintenant on va plus vous embêter, vous allez pouvoir travailler tranquillement, et puis trois articles plus loin, on leur dit, oui mais alors attention, les clients n'ont pas le droit de vous approcher, parce que sinon amende, alors c'est pas camp de rééducation, c'est stage de sensibilisation, mais enfin, comme ça, et ce qui fait que maintenant, les prostituées qui veulent continuer, elles sont obligées d'aller de plus en plus loin, de se cacher, de prendre des risques, parce que bah, y a un petit peu moins de clients, parce qu'il y a des clients qui se sont dit, attention, si j'ai un PV qui arrive chez moi et que mon épouse légitime le découvre, ça va peut-être aller un peu mal. Donc, elles sont obligées de prendre des risques, et ça va beaucoup le mal. Et l'autre question, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, en fait, c'était une question contre l'immigration, contre, puisque les prostituées sont très majoritairement des étrangères, mais ce qu'il faut voir, c'est que à partir du moment, si vraiment les clients devait être totalement empêché d'approcher, bah, les réseaux déplacent les filles dans des pays où la législation est plus favorable. Donc, pour l'argument de la protection ne marche pas du tout dans ce cas-là. Alors que, par ailleurs, il peut y avoir des tas de mesures, comme tout ce qui se passe, par exemple, à l'école, où maintenant, on va parler beaucoup plus, je dirais, en principe, de désir de plaisir et pas seulement de protection contre les risques. Il y a plus d'ouverture sur des tas de choses, mais les deux, bon, c'est... Voilà. Mais
moi, Natacha,
je voulais. Oui,
je pense que sur la question de l'éducation sexuelle, votre livre est très intéressant, et en particulier, tout simplement, même sur l'éducation physiologique. Ouais. Le fait que des filles se retrouvent encore à avoir leurs règles sans même savoir c'est est quand même un problème absolument majeur.
Bien sûr.
Alors, votre conseil de lecture.
Alors, mon conseil de lecture, c'est pas un conseil de lecture, c'est un conseil musical, parce que c'est ce que j'écoute en ce moment, et je vous invite tous à écouter ça. C'est Tigrane. C'est pas son dernier disque, parce que c'est un disque de 2011, mais Tigrane, c'est un jeune pianiste, enfin jeune, il a voilà, 31 ans, c'est un jeune pianiste arménien qui mélange dans sa musique jazz, c'est donc un très bon pianiste de jazz, et tradi arménien. Et donc, ça donne un résultat, moi, que je trouve absolument magnifique, en tout cas, que j'écoute en boucle. Et plus récemment, là, il a enregistré avec, mais alors là, des chœurs, grand orchestre, etc., des musiques classiques arméniennes, absolument magnifiques. Mais celui-là, Tigrane, le dit, s'appelle Affable, c'est, en deux mots, c'est absolument magnifique.
Extraordinaire, et on va en écouter un extrait. Thank you. L'émission se termine. Merci Janine Mossulavo, La vie sexuelle en France aux éditions La Martinière. Natacha Raphaël, je vous dis à samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Lilian Allôme, à la technique Pierre Lemierre. À suivre après le journal Les Secrets d'Info avec Jacques Monin autour de Palantir, ce géant américain du Big Data qui collabore avec les services secrets français. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques.